autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour explorer l'Antarctique en cette semaine de rediffusion hivernale, cap sur le grand continent blanc, pour y découvrir les fascinantes stratégies d'adaptation du vivant à ce milieu hostile, glacé, au cœur de l'océan austral, dans l'incroyable lumière polaire. Sur les traces de deux explorateurs et guides naturalistes, l'ornithologue Sylvain Mahuzier et le spécialiste des baleines et mammifères marins, Jean-Pierre Sylvestre, qui nous avait fait partager en mai dernier, leur passion pour les pôles en général et le pôle sud en particulier, mais aussi tous les enjeux environnementaux, économiques, géopolitiques et scientifiques de ces terres glacées du bout du monde autour de la question « Pourquoi explorer l'Antarctique ?» Bienvenue. Bonjour Jean-Pierre Sylvestre.
Bonjour.
Bonjour Sylvain Mahuzier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est une chance de vous avoir attrapé tous les deux, car vous passez le plus clair de votre temps au plus près des pôles, l'été en Arctique et l'hiver en Antarctique, où vous nous entraînez aujourd'hui. Cap sur le grand continent blanc, c'est le titre de ce livre, écrit à quatre mains et publié aux éditions Quae. Sylvain Mahuzier, vous êtes guide naturaliste, conférencier, professeur de sciences naturelles et ornithologue de formation. Le voyage, on pourrait dire, fait partie de votre ADN familial dans la famille Mahuzier. Votre grand-père, l'explorateur Albert Mahuzier, fut l'initiateur de connaissance du monde. Vos parents sont également de grands voyageurs. Mais pourquoi les pôles, Sylvain Mahuzier? Pourquoi cette passion pour les pôles en général et le pôle sud de l'Antarctique en particulier?
Écoutez, j'ai commencé par les oiseaux, parce que j'ai eu la grande chance que je suis le petit-fils aîné de mes grands-parents paternels, et j'ai eu la grande chance que en 1970, ils décident pour une fois de ne pas avoir leurs propres enfants, leurs 9 enfants comme assistants, mais aussi les aînés de leurs petits-enfants. Donc j'ai participé
à tout
un voyage sur les oiseaux migrateurs, ça s'appelait la grande aventure des oiseaux migrateurs, et comme on pourrait dire pour Obélix, je suis tombé dans la marmite et je suis resté ornithologue à travers les différentes activités naturalistes que j'ai pu exercer.
Et ce sont les oiseaux qui vous ont mené au pôle?
Oui, ce sont les oiseaux parce qu'en fait, j'étais depuis longtemps un amoureux virtuel, puisque je n'y avais jamais mis les pieds, mais des grands espaces sauvages. Et j'ai fini par aller passer un an en Islande. J'ai vécu un an en Islande. C'est déjà la porte de l'Arctique. Ça m'a énormément plu et je suis rapidement devenu animateur, guide et voyageur naturaliste dans les contrées polaires. Comme tous les Européens, on commence par l'Arctique parce que ça correspond à l'été, que c'est plus facile pour nous quand on a éventuellement d'autres travaux, boulot en cours, etc. Et puis un jour ou l'autre, c'est valable pour Jean-Pierre comme pour moi, on a envie d'aller voir de l'autre côté.
Jusqu'au pôle sud. Jean-Pierre Sylvestre, vous êtes donc vous aussi un aventurier des pôles, mais pas seulement, vous êtes guide naturaliste, spécialiste des mammifères marins et des baleines que vous étudiez, que vous suivez à la trace jusque dans cet océan austral qui borde de l'Antarctique, un continent dont vous avez vous aussi à cœur de nous faire découvrir. Pourquoi cette passion pour l'Antarctique, le grand continent blanc, Jean-Pierre Sylvestre, vous qui habitez le reste de l'année de l'autre côté, à Rimouski,
au Canada
hein.
Alors, parce que de toute façon, les cétacés, il y en a dans le monde entier. Et on s'est aperçu que les cétacés qui vivent en Antarctique sont très peu connus. On les a chassés, énormément chassés, puisqu'ils ont failli disparaître. Mais on s'est aperçu depuis quelques années, il y a des orques. Enfin, c'est ma spécialité, l'orque. Et on s'est aperçu qu'il y a des nouvelles espèces d'orques qui vivent en Antarctique. Donc, c'est vraiment une curiosité. Puis, il faut dire que quand vous arrivez en Antarctique, vous voyez une mer bleue, des glaciers, des montagnes, des baleines. C'est difficile d'être indifférent à tout ça. Alors, donc, on tombe amoureux.
Autour de la question, pourquoi tombe-t-on amoureux de l'Antarctique? Première piste d'exploration sonore du grand continent blanc, le continent de tous les extrêmes, avec le mix tout en superlatif de Nicolas Benita.
En 1895, lors du 6e congrès international de géographie à Londres, on insista sur l'intérêt scientifique des explorations dans l'Antarctique.
Avec ses 14 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand désert du monde, devant l'Arctique au pôle Nord et le Sahara. L'Antarctique est grand comme 2 fois l'Australie ou alors 21 fois la France.
Avec des vents soufflant à 300 km/h, c'est aussi l'endroit le plus venteux et le plus froid du globe.
Les éléments semblaient vouloir préserver les secrets de l'Antarctique contre toute incursion. Mais les savants explorateurs passèrent à travers la banquise pour atteindre les hauts plateaux glacés.
L'homme veut toujours aller plus loin, découvrir des endroits, même s'ils sont les plus inaccessibles, les plus inhospitaliers. Et puis, les pôles, c'est magique.
Magique? Pourquoi magique?
La Terre tourne autour d'un axe qui passe par les pôles.
Un monde de glace et de roches qui n'appartient qu'aux espèces animales qui ont superbement réussi à s'adapter.
C'est le seul continent sans reptiles.
Dans les eaux glacées, 300 espèces de poissons vivent. On y observe également des centaines de millions d'oiseaux, de cétacés et de phoques.
Le phoque de Weddell est une des espèces de phoques les mieux connues de par son habitat stable et la proximité des bases antarctiques.
Chaque année, entre avril et décembre, 4000 baleines australes migrent depuis les eaux glaciales de l'Antarctique vers les contrées plus douces de la péninsule de Valdez.
L'hiver polaire commence. Nous ne reverrons pas le soleil avant 3 mois.
Oh, j'ai froid, mais quand est-ce qu'on rentre ?
Pour vous, la question, ça serait plutôt quand est-ce qu'on repart ou je me trompe, Sylvain Mahuzier?
Non, non, vous ne vous trompez pas. Je ne voudrais pas plagier Charcot qui a dit ça merveilleusement bien, mais effectivement, il y a une espèce d'attirance qui fait qu'on a absolument besoin, on a une nécessité impérieuse de retourner là-bas parce que ça fait partie de notre vie, parce que ce sont des milieux naturels du bout du monde. Absolument extraordinaire, qui nous enrichissent chaque année, même si ça fait des années et des années que nous y allons.
Alors un peu de géographie peut-être, autour de l'Antarctique, on est donc à l'extrême sud de la planète, dans l'océan austral. Quand on dit Antarctique, il y a à la fois une péninsule et un continent blanc, un continent glacé.
Donc si effectivement, il y a l'Antarctique, le continent antarctique, contrairement à l'Arctique qui est un océan entouré de terre, l'Antarctique est un continent entouré par l'océan austral. Le pôle sud est en plein milieu du continent, ou presque, et il y a sur la façade ouest une péninsule qui n'est en fait rien d'autre que la continuité des Andes, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'arc de la Scotia, qui est sous-marin, qui fait un grand arc, comme son nom l'indique, et qui remonte jusqu'aux Andes. Donc c'est un prolongement des Andes, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, puisque c'est légèrement décalé par rapport au continent lui-même, même si ça fait partie du continent, que les impacts ne sont pas tout à fait les mêmes. On en parlera certainement tout à l'heure.
À propos du réchauffement climatique, entre ce continent antarctique qui est glacé, mais terriblement glacé, si j'ose dire, un environnement extrême, on découvre dans ce livre, Cap sur le grand continent blanc, qui n'a pas toujours été aussi extrême. Il y a même eu des dinosaures sur ce grand continent blanc.
Oui, alors ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au Cénozoïque, c'est-à-dire environ entre 120 et 60 millions d'années, même 200 millions d'années, vous savez que la Terre était chaude, très très chaude, et donc le continent antarctique existait déjà. Et le continent antarctique se trouvait exactement aux mêmes latitudes qu'actuellement. Et donc il régnait une chaleur, mais quand même, il vivait dans cette chaleur. Il y avait des fougères, il y avait des forêts impénétrables. Il y a eu des dinosaures, et ces derniers temps, depuis à peu près 20 ans, on découvre de plus en plus des dinosaures, et pas des petits dinosaures. Vous savez, des dinosaures, je pense que c'était, anciennement, on a pensé que c'était des reptiles, et puis c'est des animaux qu'on vécu sur la Terre pendant 150 millions d'années. Donc c'est un règne que nous ne dépasserons pas, nous autres, les humains. Il faut dire donc que les dinosaures, il ne faut pas les prendre pour des idiots non plus. Et puis là-dessus, ces animaux-là, on s'est aperçu que les dinosaures qui vivaient en Antarctique étaient des animaux gigantesques. C'est là qui est incroyable, puisqu'on a mis à jour des membres antérieurs et postérieurs d'un dinosaure qui faisait peut-être 40 mètres de longueur, qui vivait en Antarctique. Et on trouve énormément d'espèces de dinosaures. Donc le continent est habité par les dinosaures. Maintenant, on a un problème avec, parce que ces animaux-là, vu la position de l'Arctique, ces animaux-là ont connu des hivers qui duraient 6 mois. C'est-à-dire que pendant 5 mois, c'était noir total et ces animaux ont vécu sur ce continent-là.
Mais comment ont-ils réussi à survivre?
C'est ça le problème. Donc ça pose la question, c'est les dinosaures avaient le sang froid ou le sang chaud. Et on pense plus que ces animaux-là avaient le sang chaud. Donc, ils avaient certainement un plumage, puisque vous savez que les dinosaures sont les ancêtres directs des oiseaux.
Donc, on imagine un continent.
Ça remet tout en question sur les dinosaures. Et c'est pour ça que ça devient intéressant. Donc, il ne faut pas seulement associer l'Antarctique à un continent blanc et glacé. Il faut savoir que le continent antarctique est un continent qui a vécu, qui a de l'histoire derrière, que l'histoire n'était pas tellement liée au glacier. Il faut savoir que l'Antarctique est isolé du reste de la planète depuis 35 millions d'années. Ça fait que 35 millions d'années que l'Antarctique est devenu ce qu'il est actuellement.
Donc il y a eu une vie particulière sur ce continent depuis toujours, et il y a toujours aujourd'hui une vie particulière dans des conditions particulièrement justement inhospitalières. Enfin, on se dit que c'est un continent glacé, or il foisonne de vie et de différentes formes de vie. Sylvain Mahuzier.
Alors, il ne foisonne plus de vie sur le continent lui-même. Effectivement, autour, les dinosaures, ils étaient sur le continent, comme Jean-Pierre vient de l'expliquer très bien, mais là, ils foisonnent de vie autour. Donc, il n'est absolument pas possible que des mammifères et des oiseaux terrestres aient pu franchir cette énorme barrière que constitue l'océan Austral, puisque l'Antarctique est véritablement isolée maintenant. Et donc, on a évidemment affaire surtout à une faune marine.
Autour de la question comment résister à l'Antarctique, on met le cap sur le grand continent blanc en musique avec le groupe Grand Blanc sur RFI, surprise partie.
Autour de la question.
Blanc sur RFI, autour de la question pourquoi explorer l'Antarctique, le grand continent blanc bordé par l'océan Austral, avec nos invités, les guides naturalistes Sylvain Mahuzier, qui est également ornithologue, et Jean-Pierre Sylvestre, spécialiste lui des cétacés et des baleines, sur lesquels s'interroge et vous interroge Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace.
En 2016, où on en est concernant la communication des baleines entre elles? Je crois savoir qu'il y a quelques années, au milieu du XXe siècle, on commençait à s'inquiéter du fait que, avec la prolifération de la navigation maritime, les bateaux, tout le bruit que l'homme a commencé à faire sur la mer, la distance entre lesquelles les baleines pouvaient communiquer entre elles était énorme à ce moment-là et a commencé à se réduire. Aujourd'hui, où en est-on? Une baleine qui serait en Antarctique, jusqu'où peut-elle communiquer avec ses congénères qui seraient plus loin?
Votre réponse, Jean-Pierre Sylvestre?
Il nous pose un petit problème avec sa question, parce qu'on a vraiment des problèmes avec le déplacement des bateaux. Il y a de plus en plus de bateaux. Et donc, les baleines se communiquent. Il faut dire que les baleines, il y a les cétacés à dents, les cétacés à fanons. Enfin, les baleines, c'est les cétacés à fanons. Et donc, ils émettent des basses fréquences. Et justement, les bateaux émettent des basses fréquences qui perturbent carrément leur communication. Et actuellement, on a énormément d'échouage de baleines actuellement. Et on pense que c'est dû à tous ces trafics de bateaux.
Comme de communication, mais les sonars des baleines se font avoir pour les
sonars. On arrive quand même à enregistrer ces derniers temps, on arrive à enregistrer à certaines profondeurs des baleines, et c'est des baleines qui sont à plusieurs milliers de kilomètres, qui émettent quand même des sons qu'on arrive à enregistrer quand même.
Et qui arrivent à communiquer.
Est-ce qu'elles communiquent? On ne sait pas. C'est là le problème. Mmh.
Est-ce qu'elles les reçoivent justement, ces
communications? Alors, est-ce qu'elles le reçoivent? On ne sait pas. Est-ce qu'elles se communiquent? Probablement, mais peut-être elles ont des problèmes. Moi, je vois souvent les baleines sauter. Si elles sautent, c'est pas pour jouer. Hein. Si elles sautent, c'est pour donner des informations à certaines autres baleines. Mais il faut vous dire aussi une chose, c'est que les vagues émettent des basses fréquences et les vagues gênent les baleines dans leur communication. Ça, on le sait.
Pas que les bateaux, les vagues aussi gênent
voilà,
les baleines.
Voilà, c'est ça. Mais les vagues, c'est naturel. Donc les baleines, depuis des milliers d'années, ont fait avec les vagues. Sauf que les bateaux, c'est un phénomène qui dure maintenant depuis à peu près un siècle, puisqu'il y a eu les bateaux à roues et tout ça. Dans le temps qu'il y avait des voiliers, ça posait pas de problème. Après, il y a eu les bateaux à roues, ça posait pas tellement de problèmes. Sauf que maintenant, il y a des cargos partout. Ça fait énormément de bruit. Et c'est sûr que ça perturbe les baleines. Maintenant, comme c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau, on peut pas tout savoir et on sait que ça les gêne. Mais à quel degré, on sait pas encore. Voilà.
Alors, les baleines font partie de tous ces mammifères marins à sang chaud qui vivent dans ces eaux glacées de l'Antarctique.
Oui, alors...
Elles sont pas si glacées que ça ou il y a...
Si, elles sont à 4 degrés, les eaux.
C'est pas mal.
Mais il faut savoir que les baleines effectuent des migrations. Et c'est très simple. Les baleines passent l'été dans les eaux froides pour se nourrir. Et puis, en hiver, elles vont se déplacer, elles font des milliers de kilomètres pour chercher des eaux chaudes, tropicales ou subtropicales, pour s'alimenter. Mais en hiver, quand il fait moins 80 en Antarctique, elles restent pas. De toute façon, c'est pris par les banquises, les baleines restent pas. Il n'y a aucune baleine qui reste dans les eaux antarctiques.
Hein. Et il y a des parce qu'il y a des gros mammifères marins hein, qui vivent dans cet océan
austral.
Oui,
les phoques. Alors, les phoques sont habitués. Il faut voir la couche de graisse qu'ils ont aussi. Hein. Il y a des phoques
donc
qui se reproduisent.
Mmh.
Eux, ils tiennent à l'hiver antarctique, mais c'est pas le cas des baleines.
Alors sinon, il y a des poissons qui, eux, sont extrêmement bien équipés pour résister.
Très spécialisés ces... depuis 35 millions d'années. Ils ont un antigel, pas
un
tous.
Un antigel, des molécules
oui.
antigènes.
Ils n'ont pas d'hémoglobine déjà, donc le sang est incolore. Et ils ont un antigel qui leur permet de vivre dans des eaux entre moins 2 et moins 4 degrés. Alors par contre, ces poissons sont très très spécialisés. C'est-à-dire qu'un poisson qui est adapté à moins 4 ne va pas aller dans une eau à moins 5. Il va mourir de suite.
Et donc, avec les questions de changement ou de réchauffement climatique, ça pose question pour ces poissons-là
ou pas encore ? L'Antarctique n'est pas touchée par des réchauffements, je ne sais pas, le continent, je ne sais pas, mais l'eau, non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un courant circumpolaire autour qui isole complètement l'Antarctique du reste de la planète. Et donc, les eaux vont toujours rester à moins 4 degrés. Hein. Enfin, elles vont toujours rester à 4 degrés autour du continent. Et sur la côte, ça va être entre moins 2, moins 3, moins 4 degrés. Mais ça va rester. Donc les poissons ne seront pas gênés pour que s'il y a un réchauffement de l'eau en Antarctique, c'est la fin du monde de toute façon.
Sylvain Mahuzier, pour ce qui est justement du continent, alors le continent blanc, il est toujours aussi glacé, c'est la péninsule, c'est ça, Antarctique, qui est menacée
par... Oui, le continent blanc, il est glacé outre mesure, si je puis dire, puisque c'est le champion du monde en matière d'épaisseur de glace. La plus grande épaisseur de glace sur le continent, c'est 4800 mètres, l'équivalent du
c'est
Mont
plus
Blanc.
Haut, c'est, oui, voilà, c'est le Mont Blanc, c'est ça.
C'est
hein.
ça, voilà, c'est 4800 mètres d'épaisseur de glace, c'est le record. Mais on a quand même un continent, c'est d'ailleurs le plus élevé de la planète, qui est à une altitude supérieur à 2000 mètres en moyenne, 2000 mètres d'altitude. Donc c'est énorme. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle, avec la température, avec la sécheresse, avec le froid, bien entendu, les vents furieux qui courent tout autour, eh bien, on n'a pas d'habitants sur le continent lui-même ou simplement en marge, avec des exceptions comme les acariens et quelques petites mouches sans ailes qui sont capables
de résister à ces froids. Terrifiant. Par contre, c'est la péninsule Antarctique qui, elle,
alors la péninsule Antarctique, effectivement, commence à être touchée par le réchauffement climatique. Quand je dis commence, ça fait quelques décennies déjà. Comme l'a dit Jean-Pierre, ça n'est pas tellement un problème de température des eaux en profondeur. Ça n'affecte pas vraiment les poissons, ça affecte plutôt la surface et le krill. Le krill qui est donc cette grande famille de phytoplancton qui ressemble un petit peu à des crevettes, lui est très sensible à la température.
Ce qui affecte le reste de la chaîne alimentaire. On va y revenir autour de la question pourquoi l'Antarctique. On continue d'explorer le grand continent blanc sur vos traces. Jean-Pierre Sylvestre et Sylvain Mahuzier. Suite de l'aventure dans 3 minutes. On se retrouve pour caresser peut-être des phoques ou voir s'envoler un albatros dans l'incroyable lumière polaire. A tout de suite.
Les grandes voies d'Afrique. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez jusqu'au pôle sud pour cette deuxième partie d'exploration de l'Antarctique en compagnie de nos invités, les guides naturalistes Sylvain Mahuzier et Jean-Pierre Sylvestre, respectivement spécialistes des oiseaux et des mammifères marins, qui viennent de publier à quatre mains aux éditions Quae Cap sur le grand continent blanc. Autour de la question pourquoi explorer l'Antarctique, réponse du photographe Vincent Munier de l'expédition polaire Antarctica.
C'est juste royal parce qu'on a cette base et puis on rayonne à peu près à 5 km aux alentours. Et les manchots, bien sûr, le manchot empereur, c'est un peu la star, mais aussi la Délie, un petit manchot qui nous fait plein de galipettes en sautant de l'eau. Les pétrels des neiges, il y a un petit côté aussi, ça ressemble un peu à la moitivoire qu'on trouve en Arctique, d'un blanc immaculé. Je pars avec ma poulka et puis souvent seul la nuit, hein, parce que les lumières sont vraiment plus jolies, enfin je trouve, et puis c'est un peu en fonction de ce que je rencontre. J'ai le souvenir d'avoir passé la nuit avec un phoque à l'observer et à pouvoir presque... j'ai osé le caresser. Il dormait juste la tête qui sortait de son trou de glace. C'était vraiment un moment complètement magique. Et j'ai posé mon doigt sur ses moustaches. C'était quelque chose de complètement incroyable à vivre.
Magique, incroyable à vivre, l'expédition Antarctica menée par le réalisateur Luc Jacquet fait aussi l'objet d'une exposition actuellement au musée des Confluences de Lyon. L'Antarctique, c'est magique, hein, on a l'impression, pour tous ceux qui, comme vous, ont eu la chance d'y mettre le pied sur ce grand continent blanc, de le voir, de le photographier. Jean-Pierre Sylvestre, vous avez tous envie de partager ça, cette expérience.
Ouais, on fait partager aux gens avec qui on part, tous les passagers de cette compagnie-là. On leur fait partager cette expérience à vivre avec les animaux, à écouter les animaux et puis même à s'abandonner à l'Antarctique de toute façon.
Parce que vous êtes guide naturaliste, oui.
Oui, on est guide. Quand il dit toucher un phoque, il fut des temps où on n'avait pas des lois qui nous interdisaient de toucher les animaux, mais il fut un temps où on n'avait pas ça et j'ai dormi avec un phoque de Weddell, comme il a dit. Carrément, les animaux n'ont pas peur de l'homme. Il faut une chose, l'homme n'est pas un prédateur, n'est pas un ennemi. Alors pour eux, nous sommes des manchots de grande taille, 2 mètres, mais on est des manchots.
Donc vous, Jean-Pierre Sylvestre, vous êtes un manchot pour le phoque avec qui vous avez dormi,
c'est ça ? Moi, je suis plus un phoque qu'un manchot, hein, parce que dès que je vois un phoque, je m'allonge dessus et puis on dort ensemble. Oui, je fais le phoque et puis ils aiment ça, hein, de toute façon. Mais les manchots, ils nous respectent, les otaries, les éléphants de mer, tous ces animaux-là, du moment qu'on n'est pas agressif, ils ne sont pas agressifs, puis ils viennent nous voir. Hein. Les bébés éléphants de mer, c'est incroyable, hein. Ils viennent nous voir et puis ils veulent qu'on les caresse, qu'on les prenne dans nos bras et tout. Non, c'est incroyable.
Hein. Ça donne envie quand même d'y aller avec vous. Vous êtes tous les deux effectivement guides naturalistes, sauf que faire du tourisme en Antarctique, ça ne doit pas se faire n'importe comment.
Non, tout à fait. C'est pour ça que, effectivement, comme le dit Jean-Pierre, c'était ce qui se faisait de temps à autre avant, parce qu'il n'y avait qu'un petit nombre de personnes, surtout des chercheurs et des passionnés qui allaient là-bas. Mais il n'est pas question de faire caresser un phoque par des touristes, aussi gentils soient-ils. Il n'est pas question qu'ils prennent un manchot dans leurs bras, etc. Je grossis le trait volontairement, mais il faut des règlements. Et il y a un règlement qui est bien en place. On espère vraiment, très sincèrement, nous autres guides naturalistes, tous les guides naturalistes, qui va être respecté encore longtemps. C'est un règlement qui a l'avantage d'avoir été mis en place au départ par le traité sur l'Antarctique dans les années 50, en 58 très exactement, puis renforcé par le protocole de Madrid, et Michel Rocard y était pour beaucoup, puisque c'est un des artisans avec le Premier ministre australien de ce protocole. De manière vraiment intégrale, puisque le mot qui a été prononcé et qui est sans appel, c'est que, sans appel dans le bon sens du terme, c'est que c'est un sanctuaire. On est dans un sanctuaire. Il est absolument hors de question de porter atteinte à la nature et à l'environnement en général. Il est absolument hors de question de penser à quelque exploitation minière ou énergétique que ce soit. Donc vraiment, on est dans un contexte particulier qui, si tout se passe bien, devrait durer jusqu'en 2048. Puisque le protocole a été mis en place en 98.
Donc jusque-là, l'Antarctique est intouchable.
Normalement. Parce que le problème, c'est que dans les textes, il est dit aussi que s'il y a unanimité des parties en présence pour dire qu'on arrête et qu'on passe à autre chose, eh bien c'est possible aussi. Mais on n'y croit pas, on reste assez optimiste.
L'animal le plus emblématique peut-être de l'Antarctique, bah, c'est le manchot hein, quand même.
Oui, alors on devrait dire ce sont les manchots.
Les manchots, voilà, oui. Parce il n'y a pas que le manchot empereur, ben et il y en a plein
bien
d'autres.
Bien sûr que non, le manchot empereur est le plus grand, le plus emblématique, il est vrai. Il faut dire qu'il a choisi, entre guillemets, façon de parler, mais il a choisi de se reproduire en hiver, avec toutes les contingences extraordinaires que ça représente et qui ont été très très bien décrites dans le film
de Jacquet, la marche de l'empereur,
qui est merveilleux. Hein. Mais il y a le manchot royal qui lui est un petit, qui est plus subantarctique. Et puis en Antarctique même, il y a aussi les trois petits manchots entre guillemets auxquels Jean-Pierre et moi on a affaire quotidiennement quand nous sommes là-bas, c'est-à-dire le manchot Adélie, le manchot Papou et le manchot à jugulaire.
Voilà, qui sont des. Vous nous les décrivez ceux-là ?
Alors ce sont des petits manchots qui ont une queue un petit peu en pinceau, en brosse.
La même démarche aussi.
Oui, il y a la même démarche qui font
une
quarantaine de centimètres de haut, enfin quand ils sont dressés. Et on peut quand même parler des manchots de manière très générale parce qu'ils ont à peu près tous les mêmes catégories d'adaptation qui sont extraordinaires. Ce sont les seuls oiseaux qui ont les os pleins de telle manière à pouvoir plonger beaucoup plus efficacement, puisque vous savez probablement que tous les autres oiseaux de la planète, ou presque, ont les os creux, de tous ceux qui volent, de telle manière à être beaucoup plus légers. Et puis, ils ont une...
Donc les manchots, c'est des oiseaux très particuliers.
Ce sont des oiseaux qui, compte tenu qu'il n'y avait pas de prédateurs dans les débuts, si vous voulez, de leur développement, ont petit à petit perdu la faculté de voler parce que ça n'était plus la peine de s'enfuir. Et se sont spécialisés, parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'autres ressources, en tout cas pas de ressources terrestres, se sont spécialisés dans la quête de ressources marines et sont devenus, plutôt que des voiliers, d'extraordinaires. Ce sont les plus extraordinaires nageurs et plongeurs de tous les oiseaux.
Et il n'y en a qu'en Antarctique, de ces manchots ?
Les manchots, il n'y en a pas qu'en Antarctique, il n'y en a que dans l'hémisphère sud. Vraiment tout juste, je dis tout juste parce qu'il y a un manchot qui est aux Galapagos, mais il est aux Galapagos, ça n'est pas tout à fait un hasard, le manchot des Galapagos est là parce qu'il y a un courant, qui s'appelle le courant de Humboldt, qui est particulièrement froid, donc riche en oxygène dissous, riche en nutriments, etc., qui lui permettent de vivre, mais de manière générale, les manchots sont dans l'hémisphère sud, et la majorité d'entre eux dans des eaux froides.
Autour de la question, pourquoi explorer l'Antarctique et les eaux froides de l'océan austral ? Je propose tout de suite un nouvel éclairage sur des animaux bien plus petits que les manchots et qui vivent dans l'océan austral, les oursins. C'est l'éclairage du spécialiste des oursins, Bruno David. Il est aujourd'hui président du Muséum National d'Histoire Naturelle, comme quoi les oursins, ça peut mener loin. Il est interrogé par Marjorie Philibert.
Il se trouve que l'océan austral qui entoure l'Antarctique est particulièrement riche en oursins, puisqu'il abrite à peu près 10% de la faune mondiale d'oursins. La chose la plus surprenante qu'on ait jamais trouvée en Antarctique sur des oursins, c'est qu'on a découvert un nouveau mode de reproduction chez les oursins. Et on a découvert des oursins chez lesquels les femelles abritent les jeunes à l'intérieur de poches extrêmement profondes, qui sont pratiquement à l'intérieur du squelette. C'est plus que des kangourous. Et les jeunes se développent à l'intérieur du corps de la mère. Et quand ils sont prêts à naître, qu'ils sont suffisamment grands, il y a des plaques articulées qui vont s'ouvrir, ce qui est rarissime chez des oursins, pour laisser le passage aux bébés qui vont sortir et aller mener leur vie d'oursins libres sur le fond à leur tour. On a également beaucoup travaillé sur des oursins qu'on a appelés les autobus de la mer, qui est un groupe d'oursins qui est très abondant en Antarctique et dont les pitons, au lieu d'être recouverts par une peau, sont dénudés dans l'eau de mer. Donc ces oursins se comportent comme des autobus, ils transportent en quelque sorte des passagers, et il peut y avoir jusqu'à une soixantaine de passagers différents sur un oursin. Et donc ils ont un rôle absolument majeur dans les écosystèmes, ils sont vraiment des espèces clés des écosystèmes, parce que du fait de leur présence, ils permettent également la présence de cette soixantaine d'espèces supplémentaires.
Jean-Pierre Sylvestre, vous voulez réagir sur ces oursins autobus de la mer et sur ces créatures incroyables. Alors, dans l'océan austral.
Justement, sur les oursins, j'y connais absolument rien du tout. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des invertébrés marins, on a eu des petites surprises ces 10 dernières années. Parce que les Italiens, les Français, même les Anglais, les Américains, les Russes, les Canadiens On plongeait des sous-marins pour faire l'exploration sous-marine dans les eaux antarctiques, dans la mer de Weddell et tout ça. Et on a été fort surpris. C'est-à-dire qu'on pensait que les eaux antarctiques, les eaux marines antarctiques étaient peut-être un désert. Et il s'est avéré que c'est pas du tout un désert. On a découvert carrément des jungles.
Des jungles d'invertébrés avec des drôles de formes.
Avec non seulement des oursins, mais des concombres des mers, des lys de mer. Enfin, avec des méduses, c'est bourré de méduses. Il y a des céphalopodes. Enfin bref, c'est carrément très très riche, entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Mais quand je dis riche, c'est un tapis. Hein. Donc il y a énormément de nouvelles espèces d'invertébrés, de nouvelles espèces, des espèces qu'on ne connaît pas du tout. Et ça, c'est pas du tout uniquement dans la mer de Weddell, mais c'est dans la mer de Ross et tout autour de l'Antarctique. Et c'est avéré aussi qu'il y a énormément aussi d'invertébrés qui sont de grande taille.
Et oui, donc des drôles de formes et de très grandes tailles.
De très grandes tailles. Donc, il y a des méduses qui font plus de 20-30 mètres de longueur avec un manteau de 2 mètres d'épaisse de diamètre. On a aussi vous avez reçu un spécialiste des calmars géants.
Des calmars géants, oui.
On a découvert il y a à peu près une trentaine d'années une autre espèce de calmar qui s'appelle le calmar gigantesque. Il y a deux espèces de calmars qui dépassent les 5 mètres de longueur. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les abysses entre les continents sud-africains et sud-américains. Avec l'Antarctique, nous avons des profondeurs allant de 4000 à 7000 mètres de profondeur.
Et là, dans ces abysses, il y a des poissons incroyables.
De toute façon, oui, il y a des poissons abyssaux et tout ça, donc que nous connaissons peu. Vous savez, on connaît à peu près 1% de la surface sous-marine. Et tout le reste est inconnu, donc il y a encore des soucis à se faire au niveau des scientifiques, mais aussi c'est des domaines qu'il faut vraiment protéger. Hein.
Voilà pourquoi aussi, alors à la fois il faut les protéger, et voilà pourquoi aussi l'Antarctique et l'océan austral intéressent et attirent tant de chercheurs, parce que ce sont des formes de vie particulières à étudier, que l'on ignorait jusqu'à présent.
C'est une nouvelle planète à découvrir, c'est ça, puis ça se passe sur la Terre, c'est pour ça des fois je ne comprends pas pourquoi on envoie des engins sur la Lune ou sur Mars, on s'en fout de Mars, mais je pense qu'on a la Terre, et on ne connaît pas du tout la Terre, on est en train de la polluer. C'est là que je suis en maudit, comme on dit au Québec, et je voudrais qu'on reste un petit peu sur la Terre. Regardez l'Antarctique, chaque fois qu'on va en Antarctique, on découvre des choses. Moi, au niveau des invertébrés, des fois, il y a des trucs, les gens me disent qu'est-ce que c'est, aucune idée. Il y a des choses, c'est un invertébré, mais on ne connaît pas. Et on a un copain qui s'appelle Nicolas Tolstoy, qui est un spécialiste des invertébrés marins, et des fois, il est pire que nous, parce que lui, il s'y connaît en invertébrés. Puis quand
vous
voit
lui
le
montrez
truc,
les vôtres, inconnu au bataillon.
Voilà, inconnu au bataillon, et je pense que c'est un petit peu frustrant. Mettez-vous à notre place, nous autres les naturalistes, qu'on ne sait pas de quoi. À la limite, c'est normal qu'on ne sait pas tout. Par exemple, chaque année, j'en apprends de vertes et des palmures sur les cétacés. Mais ceci dit, comme je vous dis, le continent antarctique, c'est comme si vous lisez Jules Verne, les romans de Jules Verne, qui vont à la découverte d'un continent, puis découvrent des choses. À chaque fois qu'on va en Antarctique, c'est la même chose. Quand vous savez qu'on met des sous-marins, qu'on découvre de nouvelles espèces à plus de 100 mètres de profondeur, et que c'est riche en faune, là, on se pose des questions. Et c'est pour ça que ça nous incite à y aller de plus en plus.
Et vous découvrez, vous aussi, Sylvain Mahuzier, alors vous, c'est plutôt côté oiseaux, mais des oiseaux qui n'existent que là, tout à fait spécifiques.
On ne découvre pas de nouveaux oiseaux, en tout cas pas pour l'instant. Mais je rejoins complètement Jean-Pierre, c'est une autre planète en matière de peuplement, de la manière dont les peuplements s'organisent entre eux.
Et une planète oiseaux aussi, on peut dire comme ça.
Une planète oiseaux aussi, effectivement, oiseaux de mer. Bien entendu. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, et on nous pose très régulièrement la question, et particulièrement nos passagers, nos voyageurs, on a l'habitude de dire, vous n'en avez pas marre, ça fait 12, 15, 20, 25 ans que vous allez au même endroit. Et on leur dit non.
Dans des conditions spéciales quand même, il faut être bien couvert.
Suffit d'avoir un petit peu l'habitude et surtout de s'équiper correctement. C'est quand même, on n'est quand même pas lotis de la même manière que les extraordinaires explorateurs d'il y a un siècle. Mais oui, des conditions un peu particulières, mais surtout, on s'enrichit chaque année. Ça n'est absolument pas parce qu'on va aller exactement dans la même baie que l'année précédente ou les années précédentes qu'on va avoir les mêmes expériences, les mêmes rencontres. On s'enrichit chaque année.
Une émotion particulière,
voilà, des émotions
que vous pourriez nous faire partager là.
Écoutez, c'est effectivement, on a l'habitude, si vous voulez, il y a un échange permanent entre naturalistes. Moi, j'apprends énormément de Jean-Pierre pour tout ce qui concerne la mer, les animaux marins en général. On a des échanges dans l'autre sens sur les oiseaux. Et On est très étonné de nous rendre compte, puisque souvent on partage la même cabine et on partage nos émotions, de nous rendre compte que même au sein de nos propres, c'est ce que tu viens de dire Jean-Pierre tout à l'heure, au sein de nos propres spécialités, eh bien on apprend encore énormément de choses. Alors pour les oiseaux, ce ne sera pas une nouvelle espèce, mais ce sera un nouveau comportement, ça sera une adaptation à laquelle on ne s'attendait absolument pas, etc.
Autour de la question, pourquoi explorer l'Antarctique sur les traces d'une faune particulièrement résistante et coriace? On écoute les Arctic Monkeys sur RFI. Snap out of it.
Autour de la question. What's been happening?
Sur RFI, en clin d'œil à nos invités, explorateurs des régions polaires, autour de la question pourquoi l'Antarctique et pourquoi le grand continent blanc et l'océan austral qui l'entoure sont au cœur de nombreux enjeux environnementaux, économiques et géopolitiques. Je vous propose un dernier éclairage, celui de l'océanographe et biologiste marin Philippe Coubi, coordinateur d'un atlas de la vie marine en Antarctique, très impliqué dans les réunions internationales sur la géopolitique de l'Antarctique.
Alors, sur l'Antarctique, on a des enjeux qui sont des enjeux économiques et politiques importants. En premier, il y a le traité de l'Antarctique, qui est une formidable institution qui protège tout ce qui se trouve au sud de 60 degrés sud, avec des réunions annuelles où des décisions importantes sont prises, ce qui gèle, entre guillemets, les revendications territoriales de tout le monde. Et puis, au niveau politique, notre problème actuellement est de savoir comment réussir à protéger ce qu'on appelle la haute mer, c'est-à-dire les zones qui sont en dehors des zones économiques exclusives. Puisqu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de territoire, à l'exception des îles subantarctiques, comme Crozet-Kerguelen, où là, il y a une zone économique exclusive. Mais le long du continent, les revendications sont gelées. Et les décisions, donc, doivent être des décisions internationales, faites par consensus, ce qui est très, très compliqué. Et la protection de la haute mer, que ce soit dans l'océan austral ou dans les autres océans, reste un problème majeur pour tout le monde. Par exemple, à la Commission pour la conservation de la faune et flore marine de l'Antarctique, on doit gérer les quotas de pêche sur le krill, sur la légine, qui est un poisson à haute valeur économique. Et puis, on essaye de définir des aires marines protégées. Alors, autant on arrive quand même à un moment à se mettre d'accord sur les quotas, autant ça commence à devenir très très compliqué quand on essaye de protéger sur une très longue durée, voire de manière indéfinie, des secteurs de l'océan austral. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on essaye, on n'y arrive pas.
Comment faire consensus pour protéger l'océan austral, Jean-Pierre Sylvestre, Sylvain Mahuzier?
Écoutez, Philippe Coubi a raison, c'est extrêmement difficile, même si la majorité d'entre nous restons optimistes. De notre point de vue, plus de guides naturalistes et de naturalistes tout court, c'est important de faire en sorte que le tourisme, puisque nous sommes guides, soit vraiment encadrer le mieux possible. Et de ce côté-là,
fasse le moins de dégâts possible, mais permettre d'approcher quand même cette nature-là, ce monde-là,
voilà,
ce continent-là.
Parce qu'il ne faut pas oublier que si c'est un sanctuaire total, si c'était un sanctuaire total, et il y a quelques, parce que c'est absolument indispensable dans certains endroits, il y a quelques endroits qui sont comme tels, pour le reste, si les gens n'entendent parler que d'un sanctuaire sur lequel ils ne pourront jamais mettre les pieds, eh bien...
ils auront plus de mal à s'y intéresser. Ou à vouloir
exactement,
le préserver.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils y ont mis les pieds, et je sais bien que ça n'est pas accessible à tous pour l'instant, mais ça l'est de plus en plus.
Ça fait changer quelque chose.
Mais bien entendu,
on attrape le virus.
On a, sans mentir, assez régulièrement des gens qui repartent. C'est pas du tout prétentieux ce que je dis, mais on a des gens qui repartent à la fin d'une croisière de deux semaines. Avec un autre avis et même avec une émotion intense.
On a c'est des quoi gens c'est aussi qui... la lumière polaire, le fait d'être aussi près du c'est quoi
oui, oui, c'est la lumière certainement, parce que de toute façon, ça incite à un immense respect. C'est tellement beau que forcément, on a tendance à se sentir extrêmement modeste, extrêmement humble. Mais les gens qui pleurent ou qui ont les larmes aux yeux en partant nous disent qu'ils ont découvert autre chose et qu'ils n'oublieront jamais justement leur place au sein de la nature. Hein. C'est un petit peu le choc darwinien d'une certaine manière. Et que ils sont sensibilisés. Ils n'avaient pas vraiment compris quels étaient les enjeux, parce qu'évidemment on leur parle de tout ça à bord et sur le terrain, et c'est un petit peu notre mission, c'est d'essayer modestement de leur faire comprendre à quel point ce sont des endroits qu'il convient de protéger le mieux possible et à quel point il faut rester vigilant.
D'autant qu'on ne les connaît pas si bien que ça, vous l'avez dit vous-même, hein, Jean-Pierre Sylvestre. Alors aujourd'hui, il y a des techniques de génétique, il y a des travaux qui permettent de comprendre un peu mieux toutes ces espèces. Il y a notamment eu sur les orques, dont vous êtes spécialiste, je crois.
On a un problème avec les orques, ouais.
Des découvertes.
Il y a à peu près 3 ans, on naviguait avec un de nos bateaux de la compagnie du Ponant, et entre la Géorgie du Sud et les Malouines, on est abordé par des orques, un troupeau d'orques, enfin un troupeau assez important. Il y avait à peu près une centaine d'individus, puis il y en a 10 qui se sont qui ont navigué avec nous, qui ont nagé à côté du bateau. Et quand j'ai regardé les orques, là, j'ai failli tomber par terre, parce que je crois que j'ai découvert une nouvelle espèce d'orque. Les orques antarctiques sont plus petits que les orques de l'hémisphère nord. Hein, c'est des orques de 7 mètres. Mmh. Et c'est là, le problème, c'est qu'on a décrit jusqu'à date, avant cette découverte, on avait décrit à peu près 3 nouveaux écotypes d'orques, le A, le B et le C, qui sont complètement différents des orques que nous avons dans le reste du monde. Et là, nous en avions un quatrième écotype, sauf que lorsque nous avons vu ces orques-là, ils étaient carrément inconnus. Moi, je contacte un collègue spécialiste des orques antarctiques qui me dit justement, je viens juste de décrire l'écotype, et nous en étions à la 7e observation de ces orques-là. Et depuis, ils ont été observés une quinzaine il n'y a eu que 15 observations. Et il semblerait, moi, c'est maintenant, je suis, on est plusieurs à penser ça. Actuellement, vous savez, il y a la classification des animaux, et chez les orques, on a décrit jusqu'à date qu'une seule et unique espèce d'orque, Orcinus orca. Mais là, maintenant, je pense personnellement qu'on peut décrire 2 ou 3 nouvelles espèces d'orques, et ces 3 nouvelles espèces d'orques sont des orques antarctiques, qui sont complètement différents des autres orques qui existent dans le monde. Et à vrai dire, c'est des orques qui ils ont tous un ancêtre en commun, probablement, ça c'est une théorie, parce qu'on n'a rien encore là-dessus. Ils ont tous un ancêtre en commun, sauf que depuis quelques milliers d'années, ils se sont spécialisés aux eaux antarctiques et ils se sont diversifiés. Ce sont des mammifères, hein. L'évolution va très très rapidement chez les mammifères, et c'est le cas pour l'homme. Vous savez, nous autres, regardez, vous comparez un homo sapiens actuellement avec un homo sapiens il y a 1,5 siècle, nous ne sommes plus les mêmes.
Et voilà aussi, pourquoi dans cette zone en Antarctique, il y a pu avoir des évolutions séparées.
Ah oui, il y a des évolutions assez rapides. Maintenant, on le constate avec les manchots, il me semble aussi.
Alors, c'est moins rapide, mais effectivement, on a écarquillé les yeux quand on s'est aperçu, grâce au progrès de la génétique, entre autres, que le manchot et l'albatros, les manchots et les albatros avaient un ancêtre commun.
Alors que c'est deux oiseaux alors totalement différents, le manchot ne vole pas.
Le meilleur ou le plus grand voilier du monde et le plus merveilleux plongeur et nageur du monde, ils ont un ancêtre commun. Donc c'est plein d'enseignements aussi quant à la spécialisation et aux stratégies adaptatives de tous ces animaux. C'est absolument passionnant.
Le manchot, l'albatros, c'est quoi votre oiseau préféré, Sylvain Mahuzier ?
Oh, c'est très compliqué parce que vous savez, nous sommes des guides polaires, donc il y a aussi l'Arctique qu'il ne faut pas oublier. Mais effectivement, si un jour j'étais réincarné en albatros, ça ne me déplairait pas.
Ça vous plairait bien. Et vous, Jean-Pierre Sylvestre ?
Moi, j'aimerais être une orque, comme ça, personne ne m'embêterait.
Ah,
c'est l'animal
idée.
Le plus intelligent, le plus rapide, le plus évolué. Et en plus, personne ne vous embête, vous êtes le prédateur numéro un. Donc, vous
formidable.
Êtes tranquille.
Soyons orques ou albatros. Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct pour nous faire partager cette passion pour les albatros, pour les orques et pour les pôles. Je rappelle le titre de votre livre publié à quatre mains aux éditions Quai, Cap sur le grand continent blanc, pour tout savoir, hein, absolument tout, sur l'Antarctique. Merci à vous.
Merci,
merci
au revoir.
Beaucoup.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, nous ouvrirons toutes grandes nos oreilles pour nous interroger sur le pouvoir de la voix, notre voix humaine et sa mystérieuse force d'attraction, décortiquée par le phoniatre Jean Habitbol, qui sera notre invité autour de la question comment faire entendre sa voix, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.